Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous suivons le cheminement spirituel de l'apôtre Pierre, tel qu'il nous est révélé dans les Actes des apôtres.
Quelques émissions auparavant, nous avons déjà rencontré Pierre à travers notre lecture des Évangiles. Et cette nouvelle série reprend donc la suite de son parcours.
Tout d'abord, nous allons écouter une lecture biblique relatant un événement survenu dans la vie de l'apôtre Pierre. Puis nous enchaînerons avec une interview imaginaire où notre invité Étienne jouera le rôle de l'apôtre Pierre.
Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile, tenue aux quatre coins, qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les !»« Oh non, Seigneur !» répliqua Pierre, « car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur !» Mais la voix reprit et dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur !» Par trois fois, cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon et ils se présentèrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l'esprit lui dit « Écoute, il y a trois hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux sans hésiter. » car c'est moi qui les ai envoyés.
Pierre, bonjour.
Bonjour, Yann, et bonjour à tous.
Nous venons d'écouter le récit d'une vision que le Seigneur vous a permis de vivre. Mais pourquoi est-elle si importante, au point d'être mentionnée dans la Bible?
Pour mieux la comprendre, nous devons nous replacer dans son contexte. Il est aussi nécessaire que je relate les événements qui se produisirent suite à cette vision. Mais commençons par le début. Le jour précédant la vision que j'ai reçue de Dieu, l'Éternel s'est révélé à un homme nommé Corneille. Il lui demandait d'envoyer ses serviteurs pour me chercher, car j'avais un message à lui apporter.
Et qui était Corneille ?
Corneille n'était pas juif, ce qui constitue un élément important à connaître dans ce contexte. Corneille, à ce moment-là, travaillait en tant qu'officier dans l'armée romaine. Ceci dit, il était de toute évidence un homme pieux et juste, qui craignait Dieu, l'Éternel. Je voudrais toutefois préciser que jusqu'alors, nous n'avions encore jamais annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux personnes appelées les gentils, c'est-à-dire aux non-juifs.
Et pourtant, nous avons appris en Actes chapitre 1 que vous deviez annoncer la nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus à toutes les nations.
Vous avez raison, Yann. Mais pour nous, qui sommes d'origine juive, ceci représentait un grand pas à franchir. Car nous nous considérions comme le peuple choisi, le peuple privilégié. Nous avions du mal à admettre que d'autres nations pouvaient bénéficier de la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel m'a parlé à travers cette vision. Il m'a parlé aussi à travers les événements qui ont suivi.
Que s'est-il passé alors?
Les serviteurs de Corneille m'ont demandé de les accompagner. Or, l'Éternel venait de me parler et il m'enjoignait de les suivre. Ce que j'ai fait, et lorsque je suis arrivé chez Corneille, ce dernier avait déjà réuni toute sa famille, tous ses serviteurs, et il m'a supplié de lui expliquer ce message qui créait tant de remous en Israël. Je lui ai alors parlé de la vie de Jésus. Je lui ai raconté le sens de sa mort, la raison de sa résurrection. Et alors, tandis que j'expliquais ces faits divins et historiques, le Saint-Esprit est descendu sur ces personnes qui m'écoutaient, tout comme il l'avait fait sur la foule présente à Jérusalem le jour de la Pentecôte. J'étais saisi d'étonnement. L'Éternel me révélait qu'il voulait accueillir des gens de tout peuple, de toute nation, de toute langue, à venir dans son royaume céleste. Il le prouvait en répandant son esprit sur Corneille et sa famille. Il n'était pas de mon devoir de les priver de cette bonne nouvelle, ni de les empêcher de se faire baptiser, le baptême étant le signe de la nouvelle alliance avec Dieu. Ainsi, pour la première fois, j'ai baptisé des hommes et des femmes d'origine autre que juive. Puis, je suis resté auprès d'eux plusieurs jours, afin de les enseigner davantage sur la parole de Dieu et fortifier leur foi.
Et quelle a été la suite de ces événements?
Mes frères en Christ à Jérusalem apprirent ce qui s'était passé et ils en furent scandalisés. Parce que je suis juif, il ne m'était pas permis d'entrer dans la maison d'un non-juif, et encore moins de manger à sa table. Et voilà que j'avais enfreint ce tabou. Cette croyance était fortement ancrée dans nos cœurs, et c'est la raison pour laquelle la révélation que l'Éternel m'avait accordée était si importante.
Expliquez-nous cela davantage.
Dans la vision que j'ai reçue de Dieu, j'ai vu des animaux qui, selon la tradition juive, étaient considérés comme impurs et dont la consommation était interdite. Cependant, dans cette vision, l'Éternel m'a demandé de manger de ces animaux impurs. J'en fus fort choqué. Je ne pouvais pas concevoir une chose pareille. Et pourtant, l'Éternel m'a rassuré. Il a aussi insisté pour que je mange de ces animaux, parce que lui, le Dieu Tout-Puissant, les avait dorénavant déclarés purs. J'étais tellement interloqué par ce message nouveau et bouleversant que par trois fois, le Seigneur a répété cette vision. L'Éternel avait une bonne nouvelle à me faire entendre. Il désirait que je dépasse tous mes préjugés. Je devais recevoir ces nouveaux desseins et les accepter. C'est au moment où j'ai rencontré les serviteurs de Corneille que j'ai compris le sens de cette vision.
Qu'avez-vous compris alors?
Le message de cette vision n'avait pas une portée alimentaire. Non, le Seigneur me montrait surtout que je ne devais plus considérer les non-juifs comme impurs, au point de les priver de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le Seigneur m'annonçait de même que tous ces interdits m'empêchant tout contact avec les non-juifs étaient injustes, que je ne devais plus les prendre en considération.
Mais vous avez dit tout à l'heure que l'Église à Jérusalem était choquée d'apprendre que vous aviez séjourné avec des non-juifs.
En effet, et j'ai dû tout leur expliquer, la vision de l'Éternel, ainsi que la suite des événements, et surtout le fait que le Saint-Esprit se soit manifesté à ces personnes non-juives. Et l'Église de Jérusalem a enfin compris. Nous avons enfin compris que les desseins de Dieu dépassent notre entendement et nos attentes. Nous nous sommes alors émerveillés de ce qu'il accorde le salut et la vie éternelle aux non-juifs, aux nations de toute la terre. Cette révélation a ouvert la porte à un véritable mouvement missionnaire qui a pris de l'ampleur dans les années à venir, surtout avec l'influence et l'activité de l'apôtre Paul. Car des églises allaient naître un peu partout dans le bassin méditerranéen.
Oui, ce réveil spirituel fut un véritable tournant dans l'histoire de l'Église. Mais y a-t-il des leçons que nous pouvons retenir aujourd'hui de cette merveilleuse nouvelle?
Je voudrais en souligner deux. Tout d'abord, nul homme, nulle femme ne doit être privé du privilège d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce merveilleux message est pour tous. Il est destiné à tout peuple, toute nation, toute race, toute langue et toute tribu. Malheureusement, nous pouvons nourrir des préjugés contre certaines personnes et penser qu'elles ne sont pas dignes de recevoir le message de l'Évangile, qu'il est de notre droit de les en exclure. Nous pouvons, par exemple, avoir des préjugés qui touchent les membres d'autres tribus. Ceci pour des raisons historiques, à cause de conflits qui persistent et n'en finissent plus. Nous ne devons pas alors en conclure que la bonne nouvelle de Jésus-Christ ne leur est pas destinée. Nous devons travailler à surmonter ces peurs et briser de tels préjugés. De même, nous pouvons croire que l'Éternel ne pourra jamais pardonner les actions horribles et épouvantables de certaines personnes malfaisantes. Pensons à ceux qui participent au génocide, à d'autres qui sèment la terreur ou pratiquent le viol. Aussi difficile que cela puisse paraître, la bonne nouvelle est aussi pour eux. Le pardon de Dieu est destiné à tout homme, toute femme, si bien sûr, chacun reconnaît le mal qu'il a commis et aspire à changer de comportement.
Ainsi, la première leçon est que nous ne devons priver personne de la possibilité de répondre à l'Évangile. Mais quelle est la deuxième?
En effet, et moi-même, malheureusement, j'étais aveugle, totalement hermétique à cet enseignement que je viens de donner. Et pourtant, la Bible l'enseigne clairement. La bonne nouvelle est pour toutes les nations. J'aurais dû comprendre cela bien auparavant. Voilà pourquoi le Seigneur a dû m'éclairer à travers cette vision. Ceci me conduit à déclarer que tous, nous pouvons être aveugles à certaines vérités bibliques. Nous sommes tellement conditionnés par notre culture, nos traditions, notre passé, nos expériences. Tous ces éléments créent en nous des préjugés, des idées fixes, qui nous empêchent de discerner, de saisir certaines vérités clairement enseignées à travers la Bible. Nous devons tous prier l'Éternel, afin qu'il ouvre nos yeux sur les vérités importantes que nous ne connaissons pas encore. Il est parfois difficile d'admettre ses torts, difficile de changer. Nous pouvons alors nous entêter, résister à la voix de l'Éternel qui nous exhorte à nous soumettre à sa volonté et à entrer dans la plénitude de ses desseins pour notre vie.
Merci Pierre d'avoir souligné ces deux leçons importantes. Et la prochaine fois, vous nous parlerez d'une nuit tout à fait particulière que vous avez passée en prison.
C'est exact, Yann. Et en attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.
Nous remercions Étienne d'avoir joué le rôle de Pierre. Habituellement, nous enchaînons nos discussions avec une courte méditation basée sur l'enseignement de l'apôtre Pierre. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de procéder ainsi aujourd'hui. Toutefois, nous pouvons simplement lire un extrait de ses écrits qui résume bien les propos si encourageants qu'il vient d'exprimer.
Il s'agit de la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10.
Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas sous bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce.
Souvenons-nous, comme Pierre le fait, de la manière dont nous nous conduisions avant de rencontrer Jésus, et considérons ce qu'il a fait de nous aujourd'hui, par pure grâce. Dieu accomplit des merveilles. Il a réalisé ses desseins en nous, et il peut les réaliser aussi auprès de tout homme, où qu'il soit sur cette terre.
Nous poursuivrons notre étude sur la vie de Pierre la prochaine fois. En attendant, nous vous remercions pour votre écoute, et espérons vous retrouver bientôt. Au revoir.
Au revoir, et que Dieu vous bénisse.